Jésus n'est pas celui qui doit recevoir la pitié des hommes. Luc, chapitre 23, versets 26 à 31. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix, pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple, et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles, et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici, des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous. Et aux collines, couvrez-nous. Car, si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? Jésus est-il quelqu'un qui devrait recevoir de la pitié de la part des religieux du monde ? Jésus n'est pas quelqu'un qui devrait recevoir de la pitié de la part des religieux du monde. Jésus est le Fils unique de Dieu, et il est lui-même Dieu. Il est le Créateur, le Sauveur de l'humanité et le Juge. Par conséquent, une attitude sentimentale consistant à dire « il fait pitié, c'est regrettable » envers Jésus provient d'une ignorance qui ne connaît pas du tout le Seigneur. Jésus n'est pas quelqu'un qui a besoin de la pitié humaine, mais il est le Seigneur absolu du salut en qui les humains doivent croire et à qui ils doivent obéir. La raison pour laquelle les religieux ont pitié de Jésus est qu'ils ne connaissent pas la structure de l'Évangile. Ils regardent seulement la croix et ne comprennent pas pourquoi Jésus a été baptisé, comment les péchés ont été transférés par le baptême, et comment ces péchés transférés ont été jugés sur la croix. C'est pourquoi, quand ils voient la souffrance de Jésus, leurs émotions prennent simplement le dessus, et ils restent dans une foi sentimentale du pauvre Jésus, incapable de voir la réalité de la rédemption que le Seigneur a accomplie. Cependant, ce n'est qu'une foi aveugle qui vient de la méconnaissance du véritable Évangile. Jésus n'est pas quelqu'un qui est allé à la croix pour être plein. En étant baptisé dans le Jourdain, Jésus a reçu les péchés du monde sur lui en une seule fois, et sur la croix, il a porté la peine de ses péchés en une seule fois. Et par la résurrection, il a accompli le salut. Jésus n'est pas quelqu'un qui doit recevoir la compassion humaine, mais il est le Sauveur qui a reçu le transfert des péchés du monde et a reçu le jugement pour le péché à notre place. Par conséquent, nous ne devrions pas regarder Jésus de manière sentimentale et pleurer sur lui, mais nous devons accepter la rédemption qu'il a accomplie par la foi et répondre par la foi. C'est pourquoi, alors que Jésus était en route vers la croix, il a dit « Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants » Luc, chapitre 23, verset 28. Ce que ces paroles signifient, c'est que Jésus n'est pas celui qui doit être plein, au contraire, c'est l'humanité, qui ne connaît pas l'évangile de l'eau et de l'esprit et demeure encore dans le péché, qui est vraiment à plaindre. Si l'on ne connaît pas le véritable évangile de l'eau et de l'esprit, même si l'on accomplit des activités religieuses et que l'on verse des larmes, on restera sous le péché et on ne pourra pas échapper au jugement de Dieu. Par conséquent, Jésus voulait que les gens fassent face à leur propre état spirituel et soient sauvés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus n'est pas quelqu'un qui devrait recevoir de la pitié de la part des religieux du monde, mais il est Dieu venu pour les sauver en réglant les péchés du monde en une seule fois par la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Celui qui a vraiment besoin d'être plein n'est pas Jésus, mais l'humanité elle-même, qui, sans connaître cet évangile de l'eau et de l'esprit, demeure dans le péché et se dirige vers la destruction. En réalisant ce fait, on doit aller devant le Seigneur, non pas avec une émotion religieuse de pitié envers Jésus, mais avec la foi qui croit au baptême, à la croix et à la résurrection de Jésus, et recevoir la rémission des péchés. Le sens profond des paroles « Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants ». Lorsque Jésus était conduit à la croix, les femmes et la foule pleuraient tristement et avaient pitié de lui. Cependant, Jésus leur dit « Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants » Luc, chapitre 23, verset 28. Ces paroles sont un avertissement du Seigneur qui transperce l'état du cœur d'un pécheur. Jésus n'est pas le Seigneur qui doit être consolé en recevant la pitié émotionnelle des hommes. Jésus est le Fils de Dieu, le Seigneur de la rédemption qui a porté les péchés du monde sur son corps en étant baptisé par Jean. Jésus n'est pas quelqu'un qui a été traîné à la croix parce qu'il a été vaincu par la puissance humaine, mais il est celui qui est allé à la croix uniquement pour recevoir le châtiment du péché et pour accomplir son ministère. Par conséquent, les paroles de Jésus nous disant de ne pas pleurer sur lui sont une déclaration pour corriger notre foi erronée. Les pécheurs d'aujourd'hui essaient d'être sauvés en croyant seulement à la croix qui apparaît dans le symbole de Nicée, mais le Seigneur nous dit de savoir qu'il a lavé les péchés du monde en les prenant sur son corps par son baptême par Jean, et de recevoir la rémission des péchés. Même si une personne verse des larmes et a pitié de Jésus en voyant sa souffrance, si elle ne croit pas en la parole de l'évangile du salut qui a été accompli par le baptême de Jésus et la croix, ses larmes ne lui sont d'aucun profit. Si un pécheur ne croit pas dans son cœur au ministère de Jésus qui a été baptisé par Jean, cette émotion sera des larmes qui n'ont rien à voir avec son propre salut. Jésus était celui qui allait à la croix, portant les péchés du monde en étant baptisé par Jean, et par conséquent, il n'était pas quelqu'un qui avait besoin d'être plein. Ce dont les pécheurs avaient besoin n'était pas de pitié, mais de foi. C'est parce que Jésus était sur le chemin de la croix pour recevoir le jugement pour le péché, en prenant sur lui tous les péchés des pécheurs par la réception du baptême de Jean. Nous ne sommes pas ceux qui doivent avoir pitié de la souffrance de Jésus-Christ, mais nous sommes ceux qui doivent croire au baptême qu'il a reçu de Jean et à son effusion de sang pour recevoir la rémission des péchés. Si nous n'avons pas encore rencontré la vérité du salut et n'avons pas eu nos péchés purifiés, nous sommes ceux qui doivent pleurer sur nos propres âmes. Les paroles de Jésus, « Pleurez sur vous et sur vos enfants » renferment une signification plus profonde. Même maintenant, au 21e siècle, la génération qui vit sans connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit demeurera dans le péché et sera finalement placée sous le jugement de Dieu. C'est pourquoi il était nécessaire d'enseigner aux pécheurs quelles paroles de l'évangile ils doivent croire concernant Jésus. La foi en Jésus n'est pas de la pitié. Les larmes qui proviennent de la réalisation de la réalité misérable de soi-même, vivant actuellement sans connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit, et qui cherche à retourner devant cet évangile avec une repentance le cœur brisé, sont en effet le cœur que Dieu désire. Pour cette raison, nous devons croire ces paroles comme la parole de Dieu qui nous exhorte aujourd'hui de la même manière. Jésus n'est pas quelqu'un qui doit être plein, mais il est l'objet de notre foi. Celui qui devrait pleurer, c'est nous-mêmes, et non Jésus. Nous sommes des âmes qui, ayant perdu le Jésus qui a lavé les péchés du monde en étant baptisé par Jean, sommes tombés dans le péché et marchons sur le chemin pour recevoir le jugement du péché. Par conséquent, au lieu de rester dans la pitié en regardant la souffrance de Jésus, c'est nous qui devons recevoir le lavage des péchés en nous attachant à la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit et en y croyant, parole par laquelle il est venu sur cette terre, a été baptisé par Jean et a lavé les péchés du monde. Pourquoi ceux qui croient au symbole de Nicée demeurent-ils comme ceux qui n'ont pas encore reçu la rémission des péchés? Ceux qui croient seulement à la croix telle qu'elle apparaît dans le symbole de Nicée restent dans un état où ils n'ont pas obtenu le salut de leurs péchés. La raison en est que le transfert du péché, qui est l'élément le plus essentiel du salut, est manquant. Dans la structure du salut biblique, il doit y avoir un processus par lequel le péché est transmis à Jésus. Jésus a fait transférer les péchés du monde sur son propre corps en recevant le baptême de Jean-Baptiste dans le fleuve Jourdain. Le baptême que Jésus-Christ a reçu de Jean est la substance de la loi sacrificielle de l'Ancien Testament, où le péché était transféré par l'imposition des mains, et il est devenu l'agneau qui porte le péché du monde. En d'autres termes, le baptême est l'événement réel par lequel le péché a été transféré à Jésus. Par conséquent, ce n'est qu'après que le péché a été transféré que la punition pour ce péché a pu être exécutée sur la croix. Si le péché n'avait pas été transféré à Jésus, la mort sur la croix ne saurait être une mort pour nos propres péchés. Ce n'est que lorsque le péché est transféré que l'effusion de sang peut devenir l'accomplissement du jugement, et que l'expiation pour le problème du péché peut être achevée. Une foi qui croit seulement à la croix ne peut répondre à la question « Comment mon péché est-il passé sur Jésus ?» Une foi qui s'en tient uniquement à la croix, sans connaître le fait que le péché a été transféré, demeure simplement une foi émotionnelle, et l'application réelle du salut ne se produit pas. La Bible dit que l'Esprit, l'eau et le sang, ces trois témoins, rendent ensemble témoignage au salut. L'eau est le baptême de Jésus, le sang est la mort sur la croix, et l'Esprit est le témoin que l'Évangile est vrai. Cependant, Une foi qui croit seulement à la croix ne s'accroche qu'à l'un d'eux, c'est-à-dire le sang, par conséquent, la structure du témoignage est brisée, et pour cette raison, la structure du véritable salut ne peut pas non plus être établie. Une personne ayant une foi qui ne croit qu'à la croix regardera finalement vers la croix tout en gardant le péché en elle-même. Par conséquent, elle n'a aucun fondement pour dire qu'elle a reçu le lavage des péchés. Ce genre de foi fait qu'une personne demeure pécheresse toute sa vie, et la fait errer dans une repentance répétitive, une foi émotionnelle et des efforts légalistes. Dans son cœur, il n'y a ni paix ni assurance, et elle reste finalement dans une foi qui confesse « Je suis encore un pécheur ». La raison pour laquelle beaucoup de gens s'accrochent uniquement à la croix est qu'ils ne savent pas pourquoi Jésus a reçu le baptême. Dans l'histoire et la tradition, la signification du baptême que Jésus a reçu a été perdue, et les gens ont grandi dans une structure de foi qui ne met l'accent que sur la croix. Par conséquent, ils pensent recevoir le salut s'ils croient seulement à la croix, mais la Bible déclare clairement que le péché est transféré par le baptême, que le jugement est accompli sur la croix et que le salut est confirmé par la résurrection. Le salut biblique est accompli lorsque le péché passe sur Jésus par le baptême, que ce péché est jugé sur la croix, que le salut est achevé par la résurrection, et que le Saint-Esprit confirme cette vérité dans le cœur. Par conséquent, une foi en la croix sans le baptême est une foi en la croix sans le transfert du péché, et c'est une foi incomplète où le salut ne peut se produire. En conclusion, une foi qui croit seulement à la croix apparaît formellement comme une foi chrétienne, mais en réalité, c'est une foi religieuse qui ne parvient pas à atteindre la substance du salut. Le véritable salut est donné lorsque l'on croit pleinement à l'évangile du baptême de Jésus, de la croix et de la résurrection. Les différences entre la foi en la croix sans le baptême et la foi qui croit au baptême et à la croix. Une foi en la croix qui n'inclut pas le baptême et une foi qui croit à la fois au baptême et à la croix ont des structures différentes dès le point de départ. Beaucoup de religieux pensent que la rédemption a commencé à la croix, mais la Bible montre que l'histoire de la rédemption a commencé au baptême de Jésus. Jésus a reçu le transfert de tous les péchés de l'humanité sur son corps en recevant le baptême dans le Jourdain, et après cela, il a porté le châtiment pour ses péchés sur la croix. Cette structure selon laquelle le péché est transféré par le baptême et le jugement du péché est exécuté sur la croix est le principe du salut dont témoigne la Bible. Dans une foi en la croix sans le baptême, il n'y a aucune compréhension du transfert du péché. Par conséquent, beaucoup de gens comprennent la croix seulement comme un sacrifice émotionnel et moral, et ne peuvent pas expliquer comment le péché est passé sur Jésus. Cependant, une foi qui croit en l'évangile du baptême et de la croix croit clairement au fait que Jésus a pris le péché en recevant le baptême, que le jugement a été accompli sur la croix, et que le salut a été confirmé par la résurrection. Par conséquent, une personne qui croit en cet évangile de l'eau et de l'esprit jouit de l'élimination complète des péchés dans l'assurance que le péché est déjà passé sur Jésus. Ces deux types de foi montrent aussi une différence claire dans les fruits de la foi. Une foi en la croix sans le baptême conduit à répéter la confession « Je suis un pécheur » et fait demeurer dans la culpabilité et la repentance répétitive. Parce que le péché n'a pas été résolu, la vie de foi reste au niveau des émotions, de la volonté et des efforts légalistes. Cependant, une foi qui croit en l'évangile du baptême et de la croix jouit de l'identité biblique de « Je suis juste » et vit dans l'assurance et la paix donnée par le Saint-Esprit. Cette foi n'est pas ébranlée car elle n'est pas bâtie sur l'effort humain ou l'émotion, mais sur le fait historique de l'évangile que Dieu a accompli. Une grande différence apparaît aussi dans la manière dont le ministère de Jésus est compris. Une foi qui s'en tient uniquement à la croix comprend le baptême de Jésus comme un simple acte d'obéissance exemplaire. Cependant, une foi qui suit l'évangile biblique relie l'imposition des mains dans les sacrifices de l'Ancien Testament au baptême de Jésus, et sait et croit que le baptême lui-même est la substance du transfert du péché. En conséquence, la croix ne devient pas un sacrifice vague mais le jugement pour le péché transféré, et la résurrection ne devient pas un simple signe mais la preuve d'une justice complète. La Bible dit que l'eau, le sang et l'esprit, ces trois laves témoignent ensemble du salut. Dans la première épître de Jean, chapitre 5, versets 5 à 8, l'eau est le baptême de Jésus, le sang est la mort sur la croix, et l'Esprit est la confirmation que l'Évangile est vrai. Une foi en la croix sans le baptême n'accepte que l'Esprit et la croix, c'est-à-dire le sang, parmi l'eau, le sang et l'Esprit, mais une foi qui croit en l'évangile du baptême et de la croix croit en ces trois témoignages. Par conséquent, elle devient complètement cohérente avec la structure du salut dont parle la Bible. En fin de compte, une foi en la croix sans le baptême ne peut qu'avoir son assurance du salut ébranlée, avoir le péché demeurant dans le cœur, et rester bloqué dans une repentance répétitive et des efforts religieux. En revanche, une foi qui croit en l'évangile du baptême et de la croix jouit d'une expiation complète et d'une assurance inébranlable du salut, dans la confiance que le péché a déjà été transféré et jugé. La structure du salut est achevée lorsque le péché est transféré à Jésus par le baptême, que le jugement est accompli sur la croix, que la justice est confirmée par la résurrection, et que le Saint-Esprit témoigne de cette vérité dans le cœur. Par conséquent, une foi qui ne croit qu'à la croix ne peut pas être un salut complet car plus de la moitié du salut est manquante. Seul l'évangile du baptême et de la croix est biblique et est le véritable évangile qui accomplit réellement l'élimination des péchés. La différence entre la foi émotionnelle des religieux et la foi évangélique. La différence entre une foi religieuse émotionnelle et une foi évangélique commence par l'endroit où est posé le fondement de la foi. La foi émotionnelle se forme autour d'éléments émotionnels tels que les sentiments émouvants, l'atmosphère, les larmes et les expériences de louange qu'une personne ressent. Ce genre de foi est ému, attristé et reconnaissant en regardant la croix, mais il ne conduit pas à l'expérience de la résolution réelle du péché. Parce que le critère de la foi demeure sur ses propres sentiments plutôt que sur la parole de Dieu ou l'événement réel du salut, la foi vacille aussi selon l'état de son cœur. La foi émotionnelle essaie de résoudre le problème du péché avec des émotions et des résolutions, mais parce qu'elle ne sait pas comment le péché est passé sur Jésus, elle fait demeurer la personne dans la culpabilité et la repentance répétitive. En fin de compte, ce genre de foi fait répéter seulement la confession « Je suis un pécheur » toute sa vie durant, et l'on essaie de maintenir sa foi avec un zèle religieux et de la volonté, mais on ne peut pas obtenir la liberté et l'assurance dans son cœur. Cependant, la foi évangélique de l'eau et de l'esprit est une foi bâtie non sur l'émotion mais sur la vérité. La foi évangélique croit au fait que le péché a été transféré lors du baptême de Jésus, que le péché a été jugé sur la croix, et que le salut a été accompli par la résurrection. Cette foi n'est pas ébranlée parce qu'elle ne repose pas sur des sentiments mais sur l'événement historique et spirituel du salut que Dieu a accompli. Lorsque l'on croit au fait que le péché est réellement passé sur Jésus et a été complètement jugé sur la croix, on fait l'expérience de la conclusion du problème du péché dans son cœur. Et cette foi est confirmée dans le cœur par le Saint-Esprit, et cette personne en vient à avoir l'identité de n'être plus un pécheur, mais un juste. La foi émotionnelle est une foi centrée sur soi-même. Combien ai-je ressenti? Combien ai-je pleuré? Combien de résolutions ai-je prises? Deviennent le centre. En revanche, la foi évangélique est une foi centrée sur Jésus. Ce que Jésus a accompli à travers son baptême, sa croix et sa résurrection devient le centre de la foi. La foi émotionnelle connaît de sévères hauts et bas et est instable. Cependant, la foi évangélique est inébranlable et porte du fruit spirituel dans la vie. En vivant selon la direction du Saint-Esprit dans l'assurance de la purification des péchés, la paix, la gratitude et l'audace surgissent, et cela conduit finalement à une vie de prédication de l'Évangile. En conclusion, la foi émotionnelle ne peut pas résoudre le péché et lie une personne dans des actes religieux et une repentance répétitive, mais la foi évangélique permet de jouir de la vraie liberté, de l'assurance et de la vie des justes en croyant que le péché a été transféré par le baptême, que le jugement a été accompli sur la croix, et que le salut a été confirmé par la résurrection. Ce genre de foi évangélique est en effet la foi inébranlable, la vraie foi et la foi que Dieu désire. La signification des paroles de Jésus « Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants ». Lorsque Jésus a dit « Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants », Luc, chapitre 23, verset 28, ce n'était pas simplement une parole de réconfort émotionnel ou une explication de la situation, mais une parole qui pénètre la structure même du salut et du jugement. Alors que Jésus était traîné vers la croix, il se trouvait au milieu de la sympathie et des larmes émotionnelles du peuple, mais il a clairement déclaré que ce n'était en aucun cas la réponse nécessaire. Jésus n'est pas un être faible que nous, humains, devrions prendre en pitié. Il est le Dieu créateur, et celui sur qui les péchés du monde ont été transférés en une seule fois lorsqu'il a été baptisé par Jean. La croix n'était pas un lieu de mort injuste, mais le lieu où le péché transféré a été jugé. C'est pourquoi Jésus a réprimandé les gens qui pleuraient et sympathisaient en le regardant, en disant « Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants ». Ce que le Seigneur exigeait, ce n'était pas la sympathie émotionnelle humaine, mais la foi qui croit en son ministère. Ceux qui ont vraiment besoin de pleurer, ce n'est pas Jésus, mais les pécheurs eux-mêmes qui demeurent dans le péché, ne connaissant pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les gens versaient des larmes en regardant la souffrance de Jésus, mais ils vivaient encore piégés sous le péché, sans même savoir si leur propre péché avait été transféré sur Jésus qui a été baptisé par Jean, ou si ses péchés avaient été jugés. C'est pourquoi Jésus a dit « Pleurez sur vous-même ». Cela ne parle pas de remords émotionnels, mais c'est un avertissement fort pour réaliser son propre état spirituel d'être dans le péché et pour se tenir devant la vérité. De plus, Jésus a dit « Pleurez sur vous et sur vos enfants ». C'est une profonde préoccupation pour la génération suivante et un avertissement de jugement. Si la génération qui ne connaît pas l'évangile de l'eau et de l'esprit continue, c'est une parole indiquant que leurs descendants, les enfants, n'auront d'autre choix que de rester sous le péché et ne pourront finalement pas échapper au jugement du péché. Connaissant la ruine spirituelle et l'avenir de la génération non sauvée à venir, Jésus disait que le véritable objet de tristesse n'est pas la souffrance de Jésus, mais l'humanité et ses descendants qui sont placés dans le péché et sous le jugement. Ces paroles de Jésus montrent clairement que les larmes émotionnelles humaines ne peuvent jouer aucun rôle dans le salut. Cela signifie que le problème du péché ne peut pas être résolu par des larmes humaines ou par le zèle religieux. Le problème du péché n'est résolu que lorsque l'on croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est-à-dire que le péché a été transféré par le baptême de Jésus, que le péché a été jugé sur la croix, et que la justice a été confirmée par la résurrection. Par conséquent, l'ordre de Jésus de ne pas pleurer est un appel à ne pas rester dans l'émotion mais à revenir au lieu où l'on croit à la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. En conclusion, les paroles de Jésus sont une déclaration qui révèle ce qu'est le salut, quelle est la réalité vraiment triste, et quelle est la vérité qui doit être réalisée. L'objet de la tristesse n'est pas Jésus, mais la vie sous le péché, et la génération suivante se dirigeant vers la destruction sans connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce que Jésus voulait, ce n'était pas des pleurs émotionnels ou de la sympathie, mais la foi qui croit en l'évangile accompli par le baptême et la croix. Ces paroles sont la voix du Seigneur qui nous parle, à nous qui vivons aujourd'hui, de la même manière. La foi de ceux qui cherchent l'effacement du péché en croyant uniquement en Jésus crucifié est-elle correcte? Même aujourd'hui, beaucoup de gens mènent leur vie de foi en pensant qu'ils peuvent recevoir l'effacement du péché s'ils croient seulement en Jésus crucifié. Cependant, cette foi ne peut pas être la foi correcte car il lui manque le transfert du péché, qui est l'élément le plus central dans la structure du salut témoigné par la Bible. La foi qui s'accroche uniquement à la croix de Jésus n'est qu'une foi religieuse qui ne peut atteindre le salut, et elle ne peut être appelée la foi de l'évangile dont parle la Bible. Le plus grand problème de la foi qui croit seulement en la croix est qu'elle ne peut pas expliquer comment le péché a été transmis à Jésus. L'événement du baptême de Jésus par Jean dans le Jourdain n'était pas un simple acte d'obéissance ou un rituel, mais l'événement réel où les péchés du monde ont été transférés sur Jésus. Le baptême est le transfert du péché, et la croix est le lieu où le péché transféré a été jugé. Par conséquent, une foi qui ne connaît pas le transfert du péché en vient à comprendre la croix simplement comme un sacrifice émouvant, et en résultat, il n'y a aucune conviction que mon péché a été réellement transmis à Jésus, et la purification du péché ne se produit pas dans le cœur. Les gens ayant une telle foi ne peuvent s'empêcher de confesser qu'ils sont encore pécheurs, même en disant qu'ils croient en Jésus. La raison en est que le péché demeure dans leur cœur, ce qui conduit à une répétition de la repentance, de la culpabilité et d'une foi émotionnelle. En fin de compte, ils n'ont aucun fondement pour dire que leurs péchés ont été ôtés, ils n'ont aucune confirmation du Saint-Esprit, et leur vie de foi continue dans l'anxiété et sous un lourd fardeau. C'est la limite fatale de la foi qui croit seulement en la croix. De plus, la Bible dit qu'il y a trois éléments qui témoignent du salut, le baptême de Jésus, la croix et le témoignage du Saint-Esprit. Cependant, une foi qui s'accroche uniquement à la croix est une foi qui ne peut pas accepter pleinement la structure du salut de la Bible, car elle ne retient qu'un seul de ses témoignages. Par conséquent, ce genre de foi transforme le salut en un concept et une émotion plutôt qu'en un événement réel, et seul le zèle religieux subsiste alors que le péché n'est pas résolu dans le cœur. Le salut biblique est accompli lorsque le péché est transféré sur Jésus lors de son baptême, que le jugement pour ce péché est exécuté sur la croix, que la justice est complétée par la résurrection, et que le Saint-Esprit donne la confirmation dans les cœurs de ceux qui croient en cet évangile. Par conséquent, le salut est obtenu non pas par une foi qui croit seulement en la croix, mais par une foi qui croit au baptême et à la croix ensemble. C'est l'évangile de l'eau et de l'esprit, et c'est la structure complète du salut que Dieu nous a donné. En conclusion, une foi qui cherche à obtenir l'effacement des péchés en croyant seulement à la croix ne peut pas mener au salut. Si le péché n'a pas été transféré sur Jésus, la croix ne peut pas être le jugement pour mon péché, et l'expérience de l'élimination du péché du cœur ne se produit pas. Le vrai salut est donné lorsque l'on croit que le péché a été transmis lors du baptême et que le jugement a été accompli sur la croix. Par conséquent, la foi correcte est la foi de l'Évangile qui croit au baptême et à la croix ensemble. Qu'est-ce que l'Évangile de l'eau et de l'Esprit qui donne le vrai salut? Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a, et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, et il est allé vendre tout ce qu'il avait, et l'a acheté, Matthieu, chapitre 13, versets 44 à 46. Ce passage dit qu'en étant baptisé par Jean-Baptiste, Jésus a pris sur lui les péchés du monde et les a purifiés. Parce que les péchés du monde ont été transférés sur Jésus par son baptême reçu de Jean, il est celui qui est allé à la croix et a versé son sang pour le jugement de nos péchés à notre place. La parole de la Bible parle de Jésus comme étant la perle, celui qui a été jugé sur la croix parce que les péchés du monde avaient été transférés sur son propre corps par son baptême par Jean. Même dans ce monde, un marchand qui trouve la perle la plus précieuse devient celui qui vend tout ce qu'il a pour acheter cette perle. Maintenant, quelle serait la perle la plus précieuse pour vous? Cette perle, c'est de rencontrer et de croire en Jésus-Christ, qui a pris sur lui et purifié les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste. Et vous ressentirez une gratitude nouvelle pour le fait que c'est Jésus qui, parce qu'il a reçu le transfert de vos péchés, est allé à la croix, a versé son sang et est ressuscité des morts. Dans le passage du Nouveau Testament de Matthieu, chapitre 3, versets 15 à 16, Jésus dit qu'il a purifié les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste, Matthieu, chapitre 3, verset 15. Dans ce verset, à quoi fait référence toute justice? Cela parle du fait que Jésus a eu les péchés du monde transférés sur son propre corps en étant baptisé par Jean. Le Seigneur a accompli l'œuvre de purification des péchés du monde en une seule fois en étant baptisé par Jean-Baptiste. Par conséquent, Jésus est devenu celui qui a accompli le ministère consistant à nous sauver, vous et moi, des péchés de ce monde. Jésus a purifié les péchés du monde en recevant le baptême de Jean, est allé à la croix, a été cloué et a versé son sang, et en ressuscitant des morts, il est devenu le Sauveur éternel pour ceux qui croient. Par conséquent, il faut connaître et croire le fait que tous les péchés du monde ont été transmis au corps de Jésus en une seule fois. Jésus est devenu celui qui s'est chargé des péchés du monde en étant baptisé par Jean et est devenu le sacrifice expiatoire en étant cloué à la croix. Jésus est devenu notre Sauveur en prenant sur lui et en purifiant les péchés du monde en une seule fois par son baptême par Jean-Baptiste, et en étant jugé sur la croix comme le prix de ce péché. Si nous croyons au fait que Jésus a purifié les péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean, tous nos péchés en viennent à être purifiés. Quel est le ministère de Jésus pour nous donner le véritable effacement des péchés? Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste pour prendre sur lui et laver le péché du monde, et en étant cloué à la croix, il est devenu le Sauveur de nous tous qui croyons maintenant. Par conséquent, nous devons savoir et nous rappeler le fait que sans le ministère de son baptême par Jean, Jésus n'aurait pas pu être pendu à la croix. C'est parce que Dieu a consigné la loi du sacrifice dans l'Ancien Testament. c'est-à-dire que Dieu a établi la loi du sacrifice selon laquelle une offrande sacrificielle ne pouvait devenir une véritable offrande que lorsqu'elle recevait l'imposition des mains pour que le péché lui soit transféré, Lévitique, chapitre 1, versets 1 à 12, et chapitre 4, versets 1 à 25. Par conséquent, afin de sauver les pécheurs du péché en venant dans ce monde comme le Sauveur, Jésus, à l'âge de 30 ans, est allé vers Jean-Baptiste et a désiré être baptisé. Il n'y avait qu'une seule raison pour laquelle Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste. C'était pour que le péché du monde soit transféré sur son propre corps et pour le laver. Jésus a accepté volontairement d'être baptisé par Jean pour accomplir toute la justice de Dieu, et le fait qu'il ait reçu le baptême donné par Jean avait pour but de prendre sur son propre corps tous les péchés de l'humanité vivant sur cette terre, de devenir une offrande sacrificielle et de laver nos péchés. Le baptême que Jésus a reçu de Jean était un ministère juste pour prendre sur lui et laver éternellement le péché du monde. Par conséquent, nous devons croire en cet acte juste de Jésus, qui a pris sur lui et a lavé le péché du monde en recevant le baptême de Jean. Pour avoir aujourd'hui la même foi que celle qu'avaient les apôtres dans l'Église primitive, nous devons avoir tous nos péchés lavés en croyant en Jésus, qui a pris sur lui et a lavé le péché du monde en une seule fois en recevant le baptême de Jean-Baptiste, et est devenu le sacrifice expiatoire pour nos péchés en étant cloué à la croix. Nous devons recevoir le lavage de nos péchés par la foi qui croit au ministère de Jésus recevant le baptême de Jean. Nous devons recevoir l'effacement des péchés en croyant au fait que le Seigneur a reçu le baptême de Jean et a lavé le péché du monde. Nous pouvons connaître Jésus et croire en lui comme le Sauveur qui a lavé tous nos péchés en recevant le baptême de Jean-Baptiste. Nous devons devenir ceux qui peuvent témoigner que nous sommes devenus des personnes dont les péchés ont été lavés en croyant au fait que Jésus a lavé le péché du monde en une seule fois en recevant le baptême de Jean-Baptiste. Jusqu'à présent, parce que vous n'avez pas rencontré ceux qui transmettent la parole de vérité selon laquelle Jésus a reçu le baptême de Jean, a porté les péchés du monde et les a lavés une fois pour toutes, vous avez été des gens qui ont toujours vécu avec un cœur de pécheur. Le premier concile de Nicée s'est tenu en l'an 325 après Jésus-Christ, à Nicée, sous la direction de l'empereur romain Constantin. Ce concile ne s'est pas tenu à Constantinople, la capitale de l'Empire romain, mais à Nicée, un lieu stratégique sur le plan politique et militaire que l'empereur de l'époque jugeait approprié pour réconcilier la division de l'Église. Constantin, par l'édit de Milan en 313 après Jésus-Christ, a légalisé le christianisme et a permis la liberté de religion. Par la suite, alors qu'un grave conflit théologique au sein de l'Église concernant la nature de Jésus-Christ, à savoir la controverse arienne, commençait à se propager, il a convoqué le concile de Nicée en 325 pour le résoudre. L'accomplissement du concile de Nicée a été la restauration de la divinité de Jésus. Arius affirmait que le Fils est un être créé et n'est pas de la même substance que le Père, et en réponse, le parti orthodoxe, centré autour de l'évêque Alexandre d'Alexandrie et de son successeur Athanase, soutenait que le Fils est de la même substance que le Père. Ce débat n'était pas une simple question théologique, mais un problème critique qui pouvait provoquer la division de l'Église et l'instabilité de l'Empire. Il est rapporté qu'environ 250 à 318 évêques ont assisté au concile de Nicée, et en incluant les prêtres et les diacres, c'était un concile de grande envergure comptant des centaines de personnes. À la suite du concile, l'affirmation d'Arius a été définie comme une hérésie, et la confession selon laquelle le Fils est de la même substance que le Père et est le vrai Dieu a été officiellement adoptée comme le credo de Nicée, version de 325. À cause de cela, certains dirigeants ariens ont été exclus de l'Église. Cependant, la controverse n'a pas été complètement conclue par ce concile. Pendant environ un demi-siècle par la suite, le conflit entre les Ariens et le parti orthodoxe a continué, et la direction de l'Église a beaucoup fluctué selon les positions politiques des empereurs. Cette controverse a finalement conduit au résultat de l'établissement systématique de la doctrine de la Trinité lors du second concile de Constantinople en 381. Dans ce processus, l'Église a été progressivement absorbée dans le système de l'État romain, et par la suite, avec son établissement comme religion d'État, l'institutionnalisation de l'Église a progressé rapidement. En conséquence, un système doctrinal a commencé à se former dans lequel la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, que les premiers apôtres avaient prêché, s'est progressivement mélangée aux doctrines des religions mondaines. Le Credo de Nicée était à l'origine une confession destinée à confirmer la divinité de Jésus-Christ, mais dans l'histoire effective de l'Église, ce credo est devenu la base de l'autorité ecclésiastique catholique et de son institutionnalisation. Il est par la suite devenu le fondement qui a posé la pierre angulaire du développement du système doctrinal catholique et de l'idéologie des sept sacrements. Cette structure théologique a été largement héritée par le protestantisme après la Réforme, conduisant à une tendance où seule la foi centrée sur la croix était soulignée, tandis que la parole de vérité de l'Évangile selon laquelle Jésus a pris sur lui et a lavé les péchés du monde en étant baptisé par Jean a été exclue. En conséquence, beaucoup de croyants aujourd'hui en sont venus à ne reconnaître que la croix de Jésus comme la vérité du salut. Le ministère de Jésus prenant sur lui et lavant les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain a ainsi marqué le début de sa disparition de cette terre, et ce système a perduré pendant 1700 ans jusqu'à maintenant, en 2025. À cause de cela, l'évangile de l'eau et de l'esprit a été obscurci, et seuls des religieux qui croient uniquement en la croix sont restés sur cette terre. Pour résumer, le Concile de Nicée fut un événement historique né de la convergence des objectifs politiques de l'Empire romain et des disputes doctrinales au sein de l'Église, et il est devenu un tournant important où l'institutionnalisation et la dogmatisation du christianisme ont véritablement commencé. Cependant, en même temps, cela a eu pour résultat la disparition de ce monde de l'essence de l'Évangile primitif de l'eau et de l'esprit, c'est-à-dire la vérité de la nouvelle naissance, où Jésus donne le vrai salut aux croyants en lavant les péchés du monde par son baptême par Jean, en allant à la croix, en versant son sang et en ressuscitant des morts. Comprendre correctement ces faits historiques devient un critère important pour réfléchir à ce qu'est l'Évangile centré sur la croix auquel les gens croient aujourd'hui, et par quel courant il a été formé. Parmi ceux qui fréquentent l'Église aujourd'hui, il y en a peu qui connaissent correctement le salut. C'est parce que beaucoup adoptent souvent une attitude complaisante, pensant qu'ils peuvent aller au ciel juste en croyant. Bien sûr, il y a des gens qui considèrent que cela est suffisant, mais ce n'est qu'un choix personnel, pas la bonne réponse. En effet, les qualifications pour être un citoyen du royaume de Dieu ne sont en aucun cas simples. Par conséquent, pour devenir un chrétien véritablement né de nouveau, on doit fermement connaître et croire plusieurs paroles de vérité qu'il est essentiel de connaître. Premièrement, on doit connaître et croire la vérité selon laquelle Jésus a pris sur lui et a lavé les péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. C'est parce que ce n'est qu'alors que l'on peut avoir tous les péchés de son cœur ôtés et vivre en ayant reçu la vie éternelle. Ayant reçu la rémission des péchés, on doit vivre une vie remplie du Saint-Esprit par la foi en la parole de Dieu. C'est parce que ce n'est qu'alors que l'on peut devenir un témoin puissant et surmonter les tentations du monde. Enfin, on doit vivre la vie d'un témoin de Jésus-Christ dans la foi, en croyant à la parole de Dieu écrite. C'est parce que ce n'est qu'alors que l'on peut vivre une vie qui ne s'effondrera pas, comme une maison bâtie sur le roc. Pour aller au-delà du credo de Nicée et parvenir à une foi complète. Il a été souligné que le credo de Nicée que nous connaissons comporte de nombreuses erreurs logiques et théologiques. Malgré cela, de nombreuses églises utilisent encore le credo de Nicée. Bien sûr, cela pourrait être une question de préférence personnelle, mais il y a une raison plus fondamentale. C'est précisément parce que le credo de Nicée est la confession de foi officielle de l'Église catholique. Par conséquent, dans le passé, c'était une époque où si quelqu'un le rejetait parce qu'il ne s'alignait pas avec ses croyances, il pouvait facilement être accusé d'impiété. C'était donc une situation où l'on avait d'autre choix que de l'accepter. Cependant, à l'entrée du 21e siècle, ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur peuvent être complètement libérés de la doctrine erronée du credo, et peuvent aussi rejeter cette doctrine. Au premier concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ, qui fut le premier et le plus grand concile religieux de l'histoire chrétienne, un débat féroce éclata sur la divinité de Jésus-Christ. En particulier, la faction arienne soutenait « le Fils n'est pas de la même substance que le Père », et la faction adverse de Nicée a fermement réfuté cela, déclarant « le Fils est de la même substance que le Père ». Finalement, après discussion et vote, l'argument de la faction arienne fut défini comme une hérésie, et la confession de foi selon laquelle le Fils est de la même substance que le Père fut adoptée. C'est précisément le credo de Nicée original, version de 325. Cependant, Malgré cette décision, la controverse ne prit pas fin immédiatement. Certains parmi les dirigeants de l'Église soutenaient encore la position arienne, et comme les situations politiques et les intérêts régionaux s'entremêlaient, la division de l'Église s'aggrava en réalité. De plus, parce que l'empereur Constantin prêtait aussi son pouvoir tantôt à la faction arienne, tantôt à la faction de Nicée pour ses propres objectifs politiques, la confusion perdura quelque temps. Ces controverses furent finalement réglées au Concile de Constantinople en 381 après Jésus-Christ, le deuxième concile écuménique. Lors de ce concile, la divinité du Saint-Esprit fut aussi officiellement reconnue, et la doctrine complète de la Trinité, qui confesse que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont également Dieu, fut établie. Le credo rédigé et confirmé à cette époque est appelé aujourd'hui le credo de Nicée-Constantinople, et il est devenu la confession de foi traditionnelle utilisée dans la plupart des églises chrétiennes. Néanmoins, la doctrine de la Trinité ne fit pas l'objet d'un consensus complet même par la suite, et divers points de vue théologiques et opinions contraires continuèrent d'être soulevés. Historiquement parlant, bien que le Concile soit parvenu à une conclusion officielle, cette conclusion ne fut pas immédiatement acceptée par tous les croyants et ne mit pas fin au débat. La nuit précédant sa crucifixion et sa mort, Jésus partagea le dernier repas avec ses disciples. À ce moment-là, il distribua le pain et le vin, disant qu'ils étaient son corps et son sang. Et il dit qu'en mangeant et en buvant cela, on pouvait obtenir la vie éternelle. Cette parole signifie qu'en croyant au fait que Jésus a lavé les péchés du monde en étant baptisé par Jean, on obtient le lavage des péchés et la vie éternelle. Et puisque la croix de Jésus est la parole selon laquelle il a reçu le jugement pour nos péchés à notre place, nous pouvons savoir que par la foi, nous avons été délivrés du jugement de tous les péchés. Cependant, Judas Iscariote, qui était chargé de la bourse, vendit son maître pour 30 pièces d'argent. Par la suite, Judas, tourmenté par la culpabilité, sauta la vie. Pendant ce temps, Jésus, capturé par les soldats romains, fut crucifié sur la colline du Golgotha. Et il ressuscita 3 jours après sa mort, apparut devant ses disciples pendant environ 40 jours pour témoigner, et dit qu'il reviendrait en tant que Seigneur du second avènement sous cette même forme. Jésus resta avec ses disciples pendant 40 jours puis monta au ciel, et finalement, en tant que Seigneur assis à la droite du trône de Dieu, il attend le jour même où il reviendra. Pourquoi le christianisme s'effondre-t-il? Récemment, la controverse sur la succession héréditaire dans l'Église s'est enflammée. C'est parce qu'il arrive fréquemment que le fils du pasteur d'une grande Église hérite du poste de pasteur principal de son père. La critique publique bouillonne, demandant pourquoi il y a une succession de père en fils alors que Dieu est le propriétaire de l'Église. Bien sûr, ce n'est que le mauvais comportement de certains pasteurs, et toutes les églises ne sont pas comme ça. Cependant, la majorité des membres de l'Église ne peuvent toujours pas cacher leur malaise. C'est parce que c'est précisément l'état actuel du protestantisme aujourd'hui. Aujourd'hui, divers séminaires et forums sont organisés dans le monde entier pour marquer le 500e anniversaire de la réforme protestante, mais il est souligné qu'ils concentrent leurs efforts sur les choses erronées tout en ignorant les parties qui ont vraiment besoin d'être réformées. Aujourd'hui est une ère où le christianisme a vraiment besoin de la foi dans le message de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Avant que le Seigneur ne revienne sur cette terre, ceux qui croient en Jésus doivent devenir ceux qui ont reçu le lavage des péchés dans leur cœur et obtenu la vie éternelle en croyant au message de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Et j'espère seulement qu'ils deviendront des personnes capables d'accueillir le Seigneur quel que soit le moment où il viendra. La raison pour laquelle l'Église mondiale a ainsi perdu sa puissance spirituelle et qu'elle est entrée dans la voie de la corruption dès le moment où le credo de Nicée a été établi en l'an 325 après Jésus-Christ, parce que la parole de vérité, selon laquelle Jésus avait lavé les péchés du monde en étant baptisé par Jean, a été supprimée de ce credo de Nicée. Si, à cette époque, le message évangélique de vérité selon laquelle Jésus avait lavé les péchés du monde en étant baptisé par Jean avait été inclus dans ce credo avec la parole de la croix, et non supprimé, l'Église aurait bien vécu comme la lumière du monde, même jusqu'à aujourd'hui. Cependant, en créant le credo de Nicée en 325 après Jésus-Christ et en croyant seulement à la croix tout en excluant le message du ministère du baptême de Jésus, l'Église catholique s'est corrompue, et les réformateurs protestants aussi, en croyant à cette doctrine du credo telle qu'elle, sont finalement devenus ceux qui ont été ruinés ensemble. Nous devons connaître l'histoire de l'Église mondiale. C'est-à-dire que l'Église terrestre a été ruinée à cause du Credo de Nicée. En entrant dans le 21e siècle, l'Église mondiale a dû faire face à une crise. Le nombre de membres de l'Église diminuait chaque année, et la situation financière suivait également une tendance à la détérioration. Au milieu de cela, la pandémie de COVID-19 est survenue, rendant ce problème encore plus grave. Certaines églises ont essayé de nouvelles choses comme les cultes en ligne et diverses réunions en petits groupes, mais à l'exception de quelques grandes églises, le reste des églises a atteint une situation où elles ont dû fermer leurs portes. La crise de l'Église a frappé le monde entier. En Amérique et en Europe, de nombreuses églises ferment déjà leurs portes depuis ces 30 dernières années. Il semble que cette tendance se poursuivra à l'avenir. Maintenant, comment devons-nous surmonter cette crise difficile et avoir une foi qui soit digne devant le Seigneur? La réponse ne doit être trouvée que dans l'Évangile de Dieu. Le moyen de résoudre ce problème est de revenir à la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, que croyaient les apôtres de l'Église primitive. La parole de l'Évangile que croyaient les apôtres de l'Église primitive était la foi qui croit que Jésus a été baptisé par Jean pour prendre sur lui et laver les péchés du monde, a reçu le châtiment pour tous les péchés sur la croix, est ressuscité d'entre les morts, et est maintenant devenu notre Sauveur, Actes. Chapitre 2, versets 37 à 40, et 1er épître de Pierre, chapitre 3, verset 21. L'évangile que l'apôtre Jean croyait est aussi le même. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord, 1er épître de Jean, chapitre 5, versets 4 à 8. Cela revient à dire que l'apôtre Jean déclare aussi qu'il était une personne ayant reçu le salut en croyant en Jésus comme son Sauveur. Ce Jésus par qui les péchés du monde ont été lavés en étant baptisé par Jean, et qui est ensuite allé à la croix. Et l'apôtre Paul témoigne aussi qu'il croyait en Jésus comme son Sauveur, celui par qui les péchés du monde ont été lavés en étant baptisé par Jean, qui a été crucifié et ressuscité des morts, Épître aux Galates, chapitre 3, verset 27, et Épître aux Romains, chapitre 6, versets 4 à 9. Cela signifie que Paul et tous les saints de l'Église primitive croyaient en Jésus-Christ comme leur Sauveur, celui sur qui les péchés du monde ont été transférés et qui les a lavés en étant baptisé par Jean, qui a été pendu au bois, crucifié et ressuscité des morts. De cette façon, les apôtres et les saints de l'Église primitive témoignent qu'ils pouvaient recevoir le salut par la foi au Seigneur. Le Seigneur qui s'est chargé des péchés du monde en étant baptisé par Jean, a été crucifié et ressuscité des morts. Par conséquent, toutes les églises de ce monde doivent se détourner de la foi qui ne croit qu'à la croix, comme en parle le Credo de Nicée, et revenir au Seigneur en croyant à l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, faire laver tous leurs péchés et commencer leur vie de foi à nouveau. Désormais, nous ne devons pas nous fier aux doctrines de la théologie ou aux traditions de l'Église, mais naître de nouveau et vivre par la foi qui croit au message central des 66 livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, Jésus qui s'est chargé des péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste et est allé à la croix. Nous devons revenir au Seigneur par la foi qui croit au baptême que Jésus a reçu de Jean et à la croix. Nous devons tous reconnaître notre faute d'avoir vécu loin de l'évangile de vérité selon lequel Jésus a lavé les péchés du monde par son baptême reçu de Jean à cause du credo de Nicée erroné jusqu'à présent. Nous devons revenir dans la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, et par cette foi croyante, vivre en accord avec la volonté du Seigneur. Désormais, nous devons purifier nos cœurs par la foi qui croit en la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, que le Seigneur nous a donné. Pour ce faire, nous devons suivre le Seigneur avec la foi qui croit à l'évangile du salut selon lequel Jésus-Christ s'est chargé des péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste et est allé à la croix. Désormais, nous devons croire au fait que Jésus a lavé les péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean, et suivre le Seigneur par la foi. Bien sûr, vous devez aussi croire au sang du sacrifice de Jésus sur la croix. C'est parce que, sinon, vous ne pouvez pas avoir la foi pour être sauvé du jugement de vos péchés. C'est à cause de la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est-à-dire, parce que le Seigneur a lavé les péchés du monde pour nous en étant baptisés par Jean. Nous devons tous réformer l'Église du 21e siècle avec la foi qui croit que le Seigneur a lavé les péchés du monde pour nous en étant baptisés par Jean. Car sinon, vous ne pouvez pas laver les péchés qui sont dans vos cœurs. Si vous souhaitez connaître cette parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit plus en détail, j'espère que vous lirez le livre du pasteur Paul Sidjon, intitulé « Êtes-vous vraiment né de nouveau d'eau et d'esprit ?» Nouvelle édition révisée. Quelle est l'assurance du salut pour les chrétiens d'aujourd'hui? En tant que personne devenue chrétienne aujourd'hui, des moments de confusion surviennent souvent dans la vie de foi. On peut douter de croire correctement, et parfois même ressentir un sentiment de scepticisme. Dans de tels moments, on prie invariablement Dieu. Mais loin de recevoir une réponse à la prière, il y a des moments où seule la frustration dans le cœur grandit. Qu'est-ce qui peut bien ne pas aller avec ma foi? J'essaie de vivre selon les paroles de la Bible, mais je n'arrive pas à comprendre où cela a mal tourné. Alors, une question soudaine surgit, se pourrait-il que je me trompe simplement moi-même en pensant avoir été sauvé par le Seigneur? Malgré ce manque d'assurance, bon nombre de croyants agissent comme si tous leurs péchés avaient été ôtés. De plus, il y a aussi certains croyants qui se blâment eux-mêmes, pensant que c'est dû à leur manque de foi ou à un effort insuffisant. Tout cela est vraiment une chose regrettable. En ce sens, nous aimerions poser quelques questions afin d'être sauvés du péché. Êtes-vous vraiment né de nouveau d'eau et d'esprit? Si ce n'est pas le cas, il n'est pas trop tard, même maintenant, je vous exhorte à naître de nouveau en recevant la rémission des péchés dans votre cœur par la foi qui croit au baptême que Jésus a reçu de Jean et au sang de la croix. Enfin, marchez-vous avec le Seigneur quotidiennement? Si vous n'êtes pas capable de le faire, vous devez rapidement revenir à la foi qui croit en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est parce que ce n'est qu'alors que vous n'aurez pas de regrets lorsque vous vous tiendrez devant le tribunal du jugement à l'avenir. Pour les chrétiens d'aujourd'hui, il n'existe aucun sujet plus important que la nouvelle naissance. C'est parce que le fait que le chemin d'une personne mène au ciel ou à l'enfer est déterminé par si l'on peut être sauvé par la seule foi que Jésus a expié tous les péchés de l'humanité lorsqu'il est mort sur la croix, ou si l'on doit naître de nouveau en croyant à la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Cependant, dans la réalité des églises actuelles, l'enseignement selon lequel on est sauvé simplement en croyant est toujours très répandu. En conséquence, il y a d'innombrables fidèles dont la vie ne connaît aucun changement, même s'ils mènent leur vie de foi avec diligence. Il y a même bon nombre de fidèles qui se leur en pensant croire correctement. En fin de compte, ce n'est rien d'autre que de l'autosatisfaction, mais ils se trouvent dans un état où ils ne peuvent même pas comprendre ce fait correctement. Quel peut bien être le problème? La réponse est simple. C'est parce qu'ils passent à côté de l'essence de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que le Seigneur a donné à l'humanité. Dieu le Père nous a donné la vérité selon laquelle les péchés du monde ont été transférés sur Jésus-Christ et qu'il les a lavés en étant baptisé par Jean-Baptiste, ainsi que la parole de vérité selon laquelle il a réglé le jugement du péché sur la croix. Par conséquent, chacun doit obtenir le lavage des péchés en croyant en la parole de l'Évangile du salut, Jésus a lavé les péchés du monde une fois pour toutes en étant baptisé par Jean. Et ensuite, en ayant la foi que nous avons aussi été délivrés une fois pour toutes du jugement de nos péchés par le sacrifice de Jésus sur la croix, nous parvenons à obtenir le salut et la vie éternelle. C'est là le cœur de la foi que l'on doit posséder pour mener une vie de foi correcte. Néanmoins, jusqu'à présent, les pasteurs n'ont fait que dire « Seigneur ». Seigneur. Avec leurs lèvres, mais dans leur cœur, ils n'ont pas accepté la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Par conséquent, ils sont devenus de faux pasteurs, moqués et montrés du doigt par ce monde. Même maintenant, ils doivent reprendre leurs esprits et croire en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit afin de pouvoir vivre, tant spirituellement que physiquement. Ces personnes sont celles qui vivent toujours comme des pécheurs parce que le problème de leur péché n'a pas été résolu, car elles ne croient pas encore en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, à savoir que Jésus a lavé les péchés du monde en étant baptisé par Jean. C'est pourquoi, dès maintenant, vous et moi devons devenir ceux qui ont reçu le lavage de leurs péchés en croyant en la parole de vérité selon laquelle Jésus a lavé nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste et qui ont reçu le Saint-Esprit en don, Actes, chapitre 2, versets 37 à 41. Et le sang de la croix de Jésus est ce en quoi nous devons croire comme étant le châtiment pour nos péchés. Jésus est celui qui a pu devenir notre Sauveur aujourd'hui parce qu'il a pris sur lui et lavé les péchés de ce monde une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste, puis a versé son sang sur la croix et est ressuscité des morts. Aujourd'hui, les gens doivent savoir qu'ils ont essayé de faire résoudre les péchés qu'ils commettent en croyant seulement au sang précieux que Jésus a versé sur la croix, mais qu'en fin de compte, ils sont tombés dans la stagnation spirituelle, comme ceux qui ont échoué. Maintenant, vous devez revenir au Seigneur en croyant en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, à savoir que Jésus a pris sur lui et a lavé les péchés du monde en étant baptisé par Jean. Nous devons savoir et croire que le sacrifice de Jésus, qui a versé son sang sur la croix, est le châtiment pour nos péchés. Vous devez savoir par quoi s'est manifesté l'amour de Dieu, qui vous a aimé, vous et moi. L'amour de Dieu s'est manifesté comme l'amour par lequel Jésus a pris sur lui et a lavé les péchés du monde une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste, le représentant de l'humanité. Et nous devons savoir qu'il est le Sauveur qui a maintenant payé le prix de nos péchés en étant crucifié, en mourant et en ressuscitant des morts. Lorsque Jésus a dit, ainsi, lors de son baptême par Jean, il disait qu'il prenait sur lui et lavait vos péchés et les miens par le baptême qu'il a reçu de Jean. C'est pourquoi il a dit, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste, Matthieu, chapitre 3, verset 15. Il parle ici de la raison pour laquelle il a été baptisé par Jean. Jésus est celui qui manifeste maintenant l'amour de Dieu, qui a payé le prix des péchés de l'humanité en prenant d'abord sur lui et en lavant les péchés du monde sur son propre corps par son baptême reçu de Jean, et ensuite en versant son sang précieux sur la croix. Alors, vos péchés sont-ils dans votre cœur en ce moment? Où ont-ils été transférés sur le corps de Jésus? Nous devons connaître la vérité selon laquelle Jésus a pris sur lui et a lavé les péchés du monde une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste, et la croire dans nos cœurs. Croyez-vous, en ce moment même, au fait que Jésus s'est fait transférer les péchés du monde et les a tous lavés une fois pour toutes en étant baptisé par Jean? Ou bien, ignorant ce fait, vivez-vous encore votre vie de foi en croyant dans votre cœur seulement au Jésus qui a été pendu à la croix? Reste-t-il encore du péché dans votre cœur en ce moment? Si vous aviez correctement connu et cru en l'amour de Jésus, qui a pris sur lui et a lavé les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste, il est impossible que le péché demeure dans votre cœur en ce moment. Car pour celui qui croit au fait que Jésus a pris sur lui et a lavé les péchés du monde en étant baptisé par Jean, le péché ne peut demeurer dans son cœur. N'est-ce pas ainsi? Oui, c'est ainsi. Alors, sommes-nous, vous et moi, des pécheurs avec du péché dans nos cœurs? Ou sommes-nous devenus justes, ayant reçu l'effacement du péché en croyant au baptême, par lequel Jésus a lavé les péchés du monde, et en son sang? Nous sommes devenus justes. Parce que vous avez mené votre vie de foi en croyant seulement à la croix de Jésus, vous êtes ceux qui sont tombés dans une grande ruine. Cela signifie que vous n'avez jamais cru en Jésus, qui a lavé les péchés du monde en étant baptisé par Jean, comme votre Sauveur. Parce que vous avez essayé de faire laver vos péchés par des prières de repentance, sans savoir que vos péchés ont été transférés à Jésus lorsqu'il a été baptisé par Jean, le lavage du péché n'était pas possible. Il est tout à fait juste que vous ne puissiez pas faire laver vos péchés par les prières de repentance que nous offrons au Seigneur. Vous devez savoir que si vous essayez de laver vos péchés avec des prières de repentance chaque fois que vous péchez, plus vous offrez de telles prières, plus profonde sera la déception dans laquelle vous tomberez. Si cela arrive, vous tomberez dans des religions mondaines, et il vous deviendra impossible d'en sortir. Vous devez connaître le fait que le péché dans le cœur de chaque personne est inévitablement suivi par le jugement de Dieu. Vous devez savoir que le péché de chaque personne est gravé sur les tables de son cœur, et qu'elle doit se tenir devant le tribunal de Dieu. Nous devons louer l'amour du Seigneur en croyant dans nos cœurs à l'effacement du péché, que Jésus a accompli en se faisant transférer les péchés du monde et en les lavant par son baptême par Jean. Et nous devons croire en la parole de vérité selon laquelle il est allé à la croix, a versé son sang, et ressuscité des morts, et a payé le prix pour les péchés de tous ceux qui croient. La parole de l'Évangile de vérité pour naître de nouveau, que le Seigneur nous a donnée, est la parole évangélique de l'eau et de l'Esprit, à savoir que Jésus a lavé les péchés du monde en étant baptisé par Jean. Notre salut peut être connu à travers le baptême et la croix que le Seigneur a accomplie pour nous. Comme nous le savons, ceux qui sont sauvés en croyant au salut de la vérité que Jésus a été baptisé par Jean, s'est fait transférer les péchés du monde, et les a lavés et deviennent les enfants de Dieu et sont maintenant nés de nouveau. Le don du salut dans le Seigneur est la vérité selon laquelle le ministère du salut dans lequel Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, a pris sur lui et a lavé les péchés du monde, et a versé son sang sur la croix devient le don du salut qui nous permet maintenant de recevoir l'effacement du péché. Et vous devenez ceux qui reçoivent l'effacement du péché et obtiennent la vie éternelle par la foi consistant à croire en Jésus qui a été baptisé par Jean, a pris sur lui et a lavé les péchés du monde, et est allé à la croix comme notre Sauveur. Si vous croyez maintenant à l'effacement du péché, que le Seigneur a accompli en lavant les péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean, vous goûterez à l'effacement du péché et à la paix de l'Esprit qui viennent du Seigneur. C'est pourquoi j'espère que vous deviendrez ceux qui croient au fait que cette vérité de l'expiation et que le Seigneur a été baptisé par Jean-Baptiste et a versé son sang sur la croix est devenue toute la justice du salut pour ceux qui croient maintenant, et que vous recevrez le salut. Maintenant, vous devez prendre conscience du fait que les diverses doctrines que vous suiviez dans le passé, avec une foi qui ne croyait qu'à la croix, ne sont plus nécessaires. Cela signifie qu'avec les prières de repentance que vous avez offertes jusqu'à maintenant, vous ne pouviez pas laver vos propres péchés. Cependant, vous avez maintenant reçu le salut dans vos cœurs et êtes devenu capable de vivre comme des justes en croyant en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, par laquelle Jésus a lavé les péchés du monde à travers le baptême qu'il a reçu de Jean. Alors, comment pourrions-nous ne pas rendre grâce au Seigneur? Cela signifie que nous devrions vivre de cette façon, en rendant grâce. Comme vous pouvez le voir, vous serez à même de reconnaître le fait qu'avec la seule parole de la croix en laquelle vous croyez actuellement et les prières de repentance que vous offrez, vous ne pouvez pas laver vos péchés pour qu'ils soient blancs comme neige. Par conséquent, à partir de maintenant, vous devez vous mettre en quête de la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous devons devenir ceux qui sont reconnaissants de connaître ce fait que notre Seigneur a été baptisé par Jean-Baptiste, a pris sur lui et a lavé les péchés du monde et d'être devenus ceux qui possèdent la foi qui obtient le salut par la croyance. Nous devons vivre en tenant ferme par la foi qui croit en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, à savoir que Jésus a lavé les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste. C'est-à-dire que nous devons croire fermement dans nos cœurs la parole de vérité selon laquelle Jésus a pris sur lui les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste. De plus, nous devons aussi croire clairement le fait que Jésus a subi le jugement pour nos péchés à notre place en étant pendu à la croix et en versant son sang. En outre, vous devez aussi savoir qu'il y avait beaucoup de problèmes dans les prières de repentance que vous avez répétées assidûment jusqu'à maintenant. Nous devons devenir ceux qui savent et croient que Jésus est le véritable Sauveur qui a pris sur lui et a lavé les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste. Parce que Jésus a pris sur lui les péchés du monde, nous devons nous tenir debout comme des vainqueurs de la foi, en croyant en Jésus comme notre Sauveur, celui qui a été crucifié, a versé son sang, est mort et est ressuscité des morts. Maintenant, nous sommes devenus ceux qui ne peuvent que rendre grâce à travers la foi qui croit que Jésus-Christ a pris sur lui les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste, et nous a délivrés du jugement du péché par le sang qu'il a versé sur la croix. Puisque nous sommes devenus ceux qui ont reçu le salut de tous les péchés par la foi qui croit en la parole de l'Évangile de vérité que notre Seigneur a lavé les péchés du monde en étant baptisé par Jean, nous devons devenir ceux qui vivent le reste de leur vie en rendant grâce à Dieu pour ce fait. Alléluia !